Dieu éternel, tu es le créateur du monde et nous t'en louons. Pour nous guider et nous éclairer, tu nous as donné ta parole. Donne-nous ton Esprit Saint pour que nous l'entendions avec tout notre cœur, nous la retenions et la mettions en pratique. Car parole est la vie et nous voulons vivre. Au nom de Jésus, amen.
Nous allons lire ce matin le psaume 139, versets 1 à 16. C'est la seule lecture de ce matin, et c'est un psaume de David. Nous le lirons à deux voix avec Bernard. Éternel, tu m'examines et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu discernes de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et toutes mes voix te sont familières. Ma parole n'est pas encore sur ma langue, que déjà, Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une telle connaissance est trop extraordinaire pour moi. Elle est trop élevée pour que je puisse l'atteindre.
Où pourrais-je aller loin de ton esprit? Où pourrais-je fuir loin de ta présence? Si je monte au ciel, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore pour habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira, ta main droite m'empoignera. Si je me dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière.
C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue de ce que je suis, une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et je le reconnais bien. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait dans le secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'un seul d'entre eux n'existe. Seigneur, sanctifie-nous par la vérité, ta parole est la vérité. Amen.
Voilà, c'est ce psaume 139 que j'ai pris comme inspiration pour ce culte de ce matin, pour la présentation, la bénédiction de Tila. Dieu, tu es merveilleux. A-t-on gardé, comme les enfants, la capacité à s'émerveiller? Nous émerveiller de Dieu, simplement pour qui il est. Ce psaume nous y invite, du début jusqu'à la fin. Alors c'est vrai qu'on s'émerveille quand on devient adulte et qu'on devient un cérébro, on s'émerveille quand on connaît. Mais quand subsiste un mystère qu'on ne peut pas résoudre totalement, alors ça permet encore plus l'émerveillement. Vous voyez ce que je veux dire? Sans mystère, il n'y a pas d'émerveillement possible. Et Dieu reste mystère. Mais on a quand même accès à qui il est. Qui est Dieu? Et moi, qui suis-je devant Dieu? On a dans ce psaume des pistes pour répondre à ces questions. Tout d'abord, le psalmiste dit « Tu me connais ». Seigneur, tu me connais. Au tout début du psaume, « Éternel, tu m'examines et tu me connais ». D'emblée, il place les choses. Ce n'est pas l'homme qui connaît Dieu, c'est Dieu qui connaît l'homme. L'homme et la femme, on s'entend, hein. Derrière l'homme, on entend l'humain. Dieu nous connaît. Alors, je sais que certains sont gênés par cette pensée d'un Dieu qui sait tout de nous. Ça peut être un petit peu angoissant dire « mais si Dieu connaît mes pensées secrètes, les plus inavouables, qu'est-ce qu'on fait avec ça ?» Eh bien, je pense que si on angoisse, c'est qu'on n'a pas expérimenté l'amour de Dieu. Et ce psaume nous y invite, parce que Dieu nous connaît et nous regarde avec compassion. C'est le sentiment premier de Dieu, l'amour et la compassion pour nous. Et ça, c'est libérateur, bien au contraire de ce qui nous enferme et nous angoisse. Parce que quand tout s'effondre, quand le monde entier me lâche, quand on m'accuse, quand on ne me comprend plus, quand la solitude est devenue ma seule compagne, eh bien Dieu est là. Il sait. Il me connaît. Jean, l'apôtre Jean a cette phrase magnifique dans sa première épître. Si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Voyez cette, comment dire, capacité de Dieu à nous connaître, même au-delà de ce que nous connaissons de nous-mêmes et bien entendu de ce que les autres connaissent de nous. Quel émerveillement, cette omniscience de Dieu qui est au service de notre pardon. Une omniscience pleine d'amour. Ensuite, le psalmiste nous dit « Tu m'entoures, Seigneur, tu m'entoures. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. » Donc, je ne suis pas seule, je ne suis jamais seule, puisque tu es là. Et il dit « Tu es là, même si je monte au ciel, même si je couche au séjour des morts, à l'extrémité de la mer, dans les ténèbres, dans la lumière. » Dieu est là, une omniprésence, sur nous, sur notre vie. J'insiste un peu, je reviens sur l'expression « tu mets ta main sur moi ». C'est un petit peu étonnant comme expression, une expression toute hébraïque. On peut y voir trois choses. Tout d'abord, un signe d'appartenance. Mettre la main sur quelqu'un, sur quelque chose, c'est se la prendre pour soi. Ça montre que l'humain appartient à Dieu. Nous appartenons à Dieu. Puisque de toute façon, il est notre créateur. C'est aussi, dans un commentaire juif sur les psaumes, j'ai vu cette idée que quand Dieu met la main sur nous, il nous demande d'accepter l'obéissance à la loi. Ça grésille. C'est aussi notre chemin devant Dieu en tant qu'enfant de Dieu, obéir à sa loi, consentir à obéir à sa loi. Et puis, tout à l'heure, on a fait un geste, quand on met la main, quand on pose la main, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire aussi la bénédiction. Donc dire que Dieu met la main sur nous, c'est aussi dire qu'il nous bénit, qu'il nous veut du bien, qu'il pose une parole sur nos vies, pour nous faire vivre. Et ça, c'est en toute situation, frères et sœurs. C'est pas seulement quand tout va bien qu'on peut dire « tu m'entoures par derrière et par devant ». Parce que même dans l'épreuve, Dieu nous entoure et met sa main sur nous. Ça aussi, c'est un émerveillement. On a entendu dans le témoignage de Claire que Tsila, dans sa première année de vie, à deux reprises, à 7 mois et à 9 mois, elle a été évacuée en ambulance à l'hôpital. Les parents ont eu peur, c'était beaucoup d'angoisse, c'était une épreuve. Mais aujourd'hui, nous pouvons dire que Dieu a mis sa main sur elle. D'ailleurs, quelle que fût l'issue de ça, nous aurions pu dire que Dieu a mis sa main sur elle, car on l'a vu, Dieu met sa main sur nous dans la vie, comme dans la mort, parce que le temps, notre temps avec lui ne s'arrête pas. Alors je voudrais, Claire, tout à l'heure tu as dit que ce n'était pas un prénom banal, et je voudrais vous partager la signification du prénom Tsila. D'abord c'est un prénom biblique qu'on trouve dans la Genèse, Genèse, pardon, lapsus. Tsila est la femme d'un des descendants de Caïn. Caïn et Abel, le fils d'Adam et Ève. Elle est la femme du cinquième descendant de Caïn. Elle est l'une des femmes, puisqu'il était polygame. Et c'est un prénom dérivé de l'hébreu Tsil, qui signifie ombre ou protection. Les noms hébreux sont multisens, bien souvent, ce qui en donne toute leur richesse, si bien que ce prénom a souvent été interprété, par extension, comme « à l'ombre de Dieu ». Je ne sais pas si c'est le sens que vous connaissiez. Tsila, à l'ombre de Dieu, c'est beau quand même. Donc, sous la main protectrice de Dieu. Dieu nous entoure, Dieu nous bénit, Dieu nous protège. Quel émerveillement! Et puis, troisième et dernier émerveillement dans ce psaume, quand le psalmiste dit « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Seigneur, tu as fait de moi une créature merveilleuse. » Quand on regarde dans le Larousse, pour prendre un dictionnaire, la définition de merveille, qu'est-ce que c'est ? Une merveille, c'est une chose qui cause une grande admiration par sa beauté, par sa grandeur, par sa valeur. Quelle merveille cette église, par exemple. Et c'est aussi toute chose remarquable d'une rare perfection. Donc quand on dit « Seigneur, tu fais de moi une créature merveilleuse », on est en train de dire que tu fais de moi une créature parfaite. Et c'est ce que nous sommes. À notre naissance, tout le monde s'est émerveillé d'avoir tenu un bébé dans ses mains et de dire « mais comment ?» sans qu'on sache pourquoi et de quelle façon mystérieuse ce bébé est là, parfaitement formé. Et il a tout pour se lancer dans la vie. Ça nous est donné à notre naissance, mais ça nous est donné aussi tout au long de notre vie et même, comme je disais tout à l'heure, au-delà de la mort. Je ne suis pas une œuvre imparfaite. Et vous n'êtes pas, frères et sœurs, des œuvres imparfaites. Et encore une fois, qu'on soit d'accord, cela n'a rien à voir avec ma santé, mes éventuels handicaps, ma beauté, ou pas selon des critères humains, encore moins ma réussite en ce monde. En Dieu, dans les yeux de Dieu, dans le plan de Dieu et dans l'accomplissement de Dieu, je suis une créature merveilleuse. Et ça, il ne faut jamais laisser personne vous dire le contraire. Même Elephant Man était une créature merveilleuse dans les yeux de Dieu. Et le jour viendra où l'accomplissement parfait arrivera. Parce que tel que nous sommes sur cette terre, notre corps, notre âme, notre intelligence, tout en nous est marqué par l'imperfection, c'est vrai. C'est le péché qui nous sépare de Dieu, puisque Dieu, lui, est perfection. C'est notre condition sur cette terre. Mais dans les yeux de Dieu, dans son cœur, dans sa réalité, dans son royaume, nous sommes déjà une merveille. Car Dieu voit au cœur et non à l'apparence. Souvenons-nous, quand il a choisi David pour être le futur roi d'Israël, il a dit à Samuel, qui pensait que ce n'était pas lui, mais ses frères, parce qu'ils étaient beaux, « Tu regardes à l'apparence, mais moi, je regarde au cœur. » Alors, Tsila est une merveille. Ses sœurs sont des merveilles. Nous sommes chacune, chacun, une merveille. Et il est bon, de temps en temps, de se le redire. Et si nous sommes une merveille, c'est parce que lui est merveilleux et que nous sommes à son image. Voilà. Alors, frères et sœurs, puissions-nous nous émerveiller de ce Dieu créateur, Père, Sauveur, omniprésent, omniscient, et puis on va rajouter omni-aimant. C'est en nous émerveillant de plus en plus que nous allons apprendre à le connaître de plus en plus. Et c'est en le connaissant de plus en plus que nous nous émerveillerons de plus en plus. Ça, c'est la vie en Dieu. toujours plus, plus profond, plus belle. Et puis, pour donner un visage à notre contemplation, parce que parfois c'est abstrait, même si la beauté de la nature ou d'un frère, d'une sœur, d'un enfant nous rappelle cette merveille, Dieu nous a aidés un peu en nous donnant un visage, Jésus-Christ, en qui Dieu s'est pleinement révélé. Alors puissions-nous contempler Jésus-Christ, nous émerveiller de sa vie, de ses paroles, de sa personne, de son œuvre qui est cette voie de réconciliation à Dieu qu'il a ouverte pour nous en se donnant à la croix. Cette œuvre est une merveille, pleine de mystère. Et nous, merveille de Dieu, nous sommes appelés à nous émerveiller de l'œuvre merveilleuse de Dieu en Jésus-Christ. Ça vous parle ? Amen.